VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 12h30 à Washington, 17h30 temps universel. Abdulrahman Diab pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 25 janvier. Les titres. Le président gambien Adama Barrow toujours à Dakar, mais son retour à Banjul est annoncé pour demain jeudi. Attentat à la voiture piégée dans un hôtel de Mogadiscio, bilan au moins 28 morts. Fin de la visite de la directrice générale du FMI en Centrafrique, Christine Lagarde rappelle aux donateurs leur promesse d'aider le pays à se relever après des années de guerre. Aux États-Unis, le président Donald Trump poursuit la mise en œuvre de ses promesses électorales. Il annonce des mesures concernant l'immigration. Cannes 2017 au Gabon, nous connaîtrons aujourd'hui les qualifiés pour les quarts de finale dans le groupe D avec les matchs Mali-Ouganda et Égypte-Ghana à 19h GMT. Ne ratez pas le journal de la Cannes de Nicolas Pino, mais tout d'abord les informations. Le nouveau président gambien Adama Barrow est attendu demain après-midi à Banjul. Il était parti en exil au Sénégal le 15 janvier dernier où il a été investi chef d'État à l'ambassade de son pays à Dakar. Il a demandé aux troupes de la CEDEAO de rester 6 mois dans le pays. Eric Manirakiza.
L'annonce a été postée ce matin sur un compte Facebook au nom du président Adama Barrow. Son arrivée à Banjul est prévue demain à 16h temps universel. Selon l'AFP, son conseiller Maï Fati l'a confirmé, précisant que tout changement à son programme sera communiqué. Une responsable de la coalition qui a fait élire M. Barrow a salué son retour qui, dit-elle, va combler le vide du pouvoir. Investi président le 19 janvier à l'ambassade de Gambie à Dakar, Adama Barrow a retardé son retour par crainte pour sa sécurité. Il a demandé le maintien de la présence militaire de la CEDEAO pour 6 mois. La Gambie tourne la page de l'ère Yahya Jammeh, mais les attentes et les défis s'annoncent immenses pour le nouveau président, à commencer par la mise en place d'un gouvernement.
Eric Manirakiza, en Somalie, double attentat à la voiture piégée ce matin contre un hôtel du centre de la capitale Mogadiscio, suivi d'une attaque par des combattants armés Al-Shabaab. Le bilan ne cesse de s'alourdir, le dernier faisant état d'au moins 28 morts et d'une cinquantaine de blessés. Les détails avec Jacques Aristide.
C'est en début de matinée que l'attaque a commencé. Une voiture piégée a été lancée contre l'une des entrées du périmètre de sécurité de l'hôtel Daya, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel et commencé à échanger des coups de feu avec les gardes de sécurité, selon la police somalienne. Au moins 4 assaillants étaient impliqués et ont été tués. Ils ne sont pas inclus dans le bilan obtenu de sources médicales et qu'ils y faire du bilan officiel. Alors que les services de secours, des policiers et des journalistes, étaient arrivés sur les lieux de la première explosion, un véhicule laissé aux alentours a à son tour explosé. D'après l'Union des journalistes somaliens, 7 journalistes ont alors été blessés. Une vidéo montre une déflagration puissante à quelques mètres des lieux de la première attaque où se tenaient des soldats et quelques civils.
Au Nigeria, un membre du comité de vigilance a été tué et 2 blessés par des kamikazes qui ont tenté de pénétrer dans une mosquée dans le nord-est du Nigeria. Les 2 kamikazes sont morts et 2 autres personnes ont été blessées. Mosquées, checkpoints, marchés et autres gares routières sont régulièrement pris pour cible par les kamikazes de Boko Haram. Au Sénégal, Barthélémy Diaz, député maire d'une localité de la capitale, comparé depuis ce matin en audience spéciale dans le cadre du meurtre d'un jeune survenu avant les élections de 2012. Une affaire qui secoue l'ancien parti au pouvoir et actuellement ce parti qui est allié du président Macky Sall. Ses avocats parlent de dossier politique Bakary Koura.
Son procès s'ouvre devant le tribunal correctionnel et en audience spéciale, le député maire socialiste dont l'immunité parlementaire a été levée est poursuivi pour le meurtre de Ndiaga Diouf, tué en décembre 2011 lors d'une attaque de sa mairie par un groupe de nervis. Maître Aissata Tall Sall, son avocate, est convaincu que l'affaire est politico-judiciaire. La défense voit dans l'accélération de ce dossier un prolongement de la crise au sein du Parti socialiste, une formation politique de la coalition alliée au président Macky Sall, Barthélémy Diaz conteste l'alliance avec l'APR de Macky Sall et s'est prononcé pour la candidature d'un socialiste lors de la prochaine élection présidentielle de 2019. Un autre maire socialiste de la capitale sénégalaise a aussi été emprisonné il y a quelques jours, accusé d'être à l'origine du saccage du siège du Parti socialiste, le parti qui a dirigé le Sénégal pendant plus de 40 ans jusqu'en 2000, avec la défaite d'Abdou Diouf face à Abdoulaye Wade. Le parti qui est membre de la mouvance présidentielle est aujourd'hui miné par des divisions internes. Certains leaders souhaitent son divorce avec le président Macky Sall, qu'ils accusent d'être derrière cette division.
Bakassi Koura, merci. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a quitté Bangui cet après-midi pour Entebbe en Ouganda. Madame Lagarde a déclaré que la RCA, ruinée par des années de guerre, pouvait connaître une croissance de 5%. Les donateurs internationaux avaient promis plus de 2 milliards de dollars pour relancer l'économie du pays lors d'une conférence à Bruxelles en novembre dernier. Nous reviendrons sur cette visite de Christine Lagarde en Centrafrique dans la partie magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump signe ce mercredi des décrets limitant l'immigration et va prendre des premières mesures pour bâtir un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il a par ailleurs demandé une enquête officielle.
Lors de sa campagne, Donald Trump s'était engagé à expulser les clandestins délinquants et à construire un mur à la frontière poreuse entre les États-Unis et le Mexique. En réaction, Mexico a menacé de rompre l'accord de libre-échange ALENA que Donald Trump souhaite renégocier à la veille de discussions qui débutent ce mercredi à Washington. Monsieur Trump va également signer des décrets visant à limiter l'accès aux États-Unis pour les personnes en provenance de plusieurs pays. Le président a par ailleurs annoncé qu'il allait demander une enquête sur des fraudes électorales présumées lors des scrutins de novembre, affirmant que 3 à 5 millions de personnes auraient voté illégalement. Il a cité des travaux de l'université Old Dominion, relevant que 14% de non-citoyens disent être enregistrés sur les listes électorales. En fonction des résultats, nous renforcerons les procédures de vote, a souligné M. Trump.
Voilà, c'était Nathalie Barge. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, rencontrera des représentants de l'opposition syrienne vendredi à Moscou, mais pas les représentants rebelles ayant participé au pourparlers de paix d'Astana. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Moscou. Ahmad Hamdan, membre de la coalition nationale syrienne, la principale formation de l'opposition en exil, a indiqué que son organisation a reçu une invitation, mais n'a pas encore décidé d'y prendre part. Voilà pour le journal. Place maintenant au journal de la CAN avec Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous. Ce jeudi, la grande finale du groupe D, Ghana-Égypte. Les Black Stars, déjà qualifiés, auront fort à faire face aux Pharaons, qui peuvent se contenter d'un match nul. C'est en tout cas une belle affiche. On retrouve tout de suite sur place à Port-Gentil Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
C'est une très très grosse affiche. Hein. Les Black Stars qui se sont imposés petitement à chaque fois lors de la première rencontre contre l'Ouganda et de la deuxième face aux Aigles du Mali. Et de l'autre côté, l'Égypte qui a commencé par un nul et qui a poursuivi par une victoire voudrait confirmer justement. C'est le leadership donc du groupe. Tout est ouvert. En cas de victoire de l'Égypte, les Pharaons vont prendre les commandes de ce groupe et donc terminer en tête, vont affronter les Marocains. Et en cas de match nul, ça va plutôt arranger les Black Stars du Ghana. C'est donc un match très ouvert. On attend du spectacle et surtout des buts. Depuis Port-Gentil, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA.
Le Mali, lui, n'est pas maître de son destin et doit avant tout s'imposer face à l'Ouganda à Oyem. On retrouve sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Les Maliens, vous l'avez dit, doivent absolument gagner cette rencontre contre les Cranes, les Grues ougandaises. Une rencontre déterminante pour les poulains d'Alain Giresse, parce que de l'autre côté, les Égyptiens, qui ont déjà 4 points, n'ont besoin que d'un match nul contre le Ghana pour avancer en quart de finale. Donc c'est une équation très difficile pour les Maliens qui doivent aujourd'hui suivre deux lièvres à la fois, confronter les Ougandais, mais en même temps avoir un œil sur le match Ghana-Égypte Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Ils ont besoin, Nico, d'un miracle pour pouvoir accéder au quart de finale. Timothée de Nangmaï à OYEM, VOA Afrique.
Ignorer c'est l'annonce, c'est pas bon. Plusieurs pays ont pris l'avion pour voir jouer au foot de nombre talents. La passion du foot est...
Hier, la sensation est venue d'OYEM où le champion en titre a été éliminé dès la phase de poule. Pas inspiré, la Côte d'Ivoire a encore été battue hier soir 1-0 par le Maroc, entraîné par un certain Hervé Renard. Les Lions de l'Atlas l'emportent grâce à un but d'Alioui à la 64e minute de jeu. Hervé Renard a donc réussi son pari. Il espère aller loin dans cette compétition.
C'est une nouvelle compétition qui commence avec des matchs couperets, des matchs qui vont ressembler à celui-ci, où il faut trouver des ressources physiques, où il faut avoir un mental de gagneur. Puisque quand on atteint les quarts de finale, il faut penser qu'on a une chance de pouvoir gagner. Tout en restant réaliste, ne pas se présenter sur le terrain la prochaine fois en pensant qu'on est supérieur à nos adversaires, c'est faux. Il y a des équipes qui sont supérieures à nous dans cette Coupe d'Afrique, mais quand elles sont en face de nous, il va falloir qu'elles le prouvent.
Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, qualifié pour les quarts de finale de la CAN. Côté ivoirien, c'est la soupe à la grimace, vous l'imaginez. Terrible retour en arrière pour la sélection ivoirienne qui avait franchi le premier tour des 6 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Pas inspiré, le champion en titre et son sélectionneur font grise mine. Michel Dussuyer sait que son bilan est mince et se sait menacé.
C'est une déception immense ce soir, quoi. Et je suis extrêmement déçu. J'ai une pensée aussi pour tous les Ivoiriens qui sont extrêmement déçus. Ce sont des moments qui ne sont pas faciles à vivre. La responsabilité, je l'assume. On est toujours entraîneur, on est toujours en première ligne. J'assume cette responsabilité. Après, épiloguer sur ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire, je sais que le débat aura lieu. Non. Ce soir, je suis extrêmement déçu.
Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Des réactions recueillies à OYEM par Amine Birouk pour VOA Afrique. Le Maroc prend la deuxième place du groupe C puisque les Léopards de la République démocratique du Congo terminent premier après une belle victoire hier 3-1 contre le Togo. L'inévitable Junior Kabananga avait ouvert le score pour les Léopards en première mi-temps avant que Firmin Mubele ne double la mise au retour des vestiaires. Paul-José Mpoku inscrira même un troisième but pour les Congolais en fin de rencontre. Les Éperviers avaient réduit le score par Fodo Laba. Florent Ibengue, le sélectionneur congolais, forcément satisfait de ses joueurs.
On joue nos matchs pour les gagner. On aurait voulu être qualifié plus confortablement après le second match. Donc on s'était mis une pression par rapport à ce troisième match qui aurait pu être dangereux. Mais bon, voilà, on est passé. Maintenant, il faut bien se reposer pour jouer ce quart de finale. Là, ça fait deux éditions suivantes qu'on arrive en quart de finale. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé aussi dans le temps, mais on a envie de passer ce match-là.
Florent Ibengue, le sélectionneur congolais. Déception en revanche côté togolais avec la blessure du gardien en début de match qui a perturbé la rencontre des Éperviers, comme l'explique Claude Leroy, le sélectionneur du Togo.
Donc on était 0-0, on était bien. Puis ce premier but nous a un peu cassé psychologiquement. On s'est dit, enfin les joueurs, on a senti qu'ils avaient pris un coup derrière la tête. Alors que moi je leur ai dit à la mi-temps, même si on est mené 2-0, la preuve c'est qu'à 2-1, on a une occasion de revenir à 2-2. Après tout peut à nouveau basculer, le foot ça va tellement vite. Mais bon, c'est la vie du foot, bravo à l'RDC. On a eu trop de problèmes de gardien de but à résoudre dans cette compétition pour pouvoir aller plus loin. C'est invraisemblable d'avoir connu autant de drames personnels ou de blessures et tout. Merci au terrain parce que le terrain est responsable de beaucoup de blessures et ça c'est très grave.
Claude Leroy, le sélectionneur du Togo. Des réactions recueillies à Port-Gentil par Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire. Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Nouveau rendez-vous demain matin sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Voilà, merci beaucoup Nicolas Pinault. Les auditeurs peuvent vous retrouver tout au long de nos éditions et également sur Facebook. Vous pouvez retrouver Timothée de Nangbaï qui fait souvent qui nous donne les dernières informations depuis Libreville. Timothée de Nangbaï qui est notre envoyé spécial. Et ne ratez pas donc tout à l'heure à 19h GMT les derniers matchs du groupe D, Mali, Ouganda et également Égypte, Ghana. On sera qui du Mali, de l'Égypte ou du Ghana vont passer au quart de finale.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par John Lindom.
La patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a estimé mercredi à Bangui que la Centrafrique, ruinée par la guerre, pouvait connaître une croissance de 5 % par an malgré le ralentissement de l'économie en Afrique subsaharienne. Le FMI va notamment aider le gouvernement centrafricain à améliorer son système fiscal. Rappelons que les donateurs internationaux avaient promis plus de 2 milliards de dollars pour aider à relever le pays lors d'une conférence à Bruxelles en novembre dernier. La Guinée équatoriale souhaite rejoindre les rangs de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, OPEP. Si la demande faite par Gabriel Mbaga Obian, son ministre des Mines et des Hydrocarbures, est acceptée, le pays deviendra le 15e membre de l'OPEP. La Guinée équatoriale est le troisième plus grand producteur de pétrole et de gaz en Afrique subsaharienne, avec 10,6 millions de dollars d'exportation annuelle. Le comité exécutif du Fonds monétaire international a validé un nouveau programme triennal de crédit destiné au Niger au titre de la facilité élargie de crédit. D'un montant de 134,4 millions de dollars, ce programme va couvrir la période 2017-2020 avec un premier décaissement de 19,15 millions dans l'immédiat.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par la RCA. John Lindon vous le disait tout à l'heure dans le journal de l'économie. La directrice générale du Fonds monétaire international a bouclé aujourd'hui une tournée de 48 heures à Bangui. La relance de l'économie, l'appui au processus de désarmement et de démobilisation des groupes rebelles, ainsi que l'appui au retour des déplacés étaient au centre des échanges avec les autorités centrafricaines. Le reportage de Freeman Sipila.
Christine Lagarde s'est entretenue tour à tour avec le président centrafricain, les parlementaires, la société civile, mais aussi avec les étudiants à l'université de Bangui. Le président Faustin Archange Touadéra sollicite l'appui du FMI pour la réalisation du programme DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des ex-combattants et au processus de retour des déplacés à leur domicile.
Le pays a encore besoin de soutien pour aplanir durablement les défis auxquels il est confronté. C'est pourquoi je sollicite à nouveau l'appui du Fonds monétaire international pour la mobilisation des ressources extérieures afin d'appuyer le processus du DDRR, de la réconciliation nationale, du retour des déplacés et réfugiés, le développement économique de l'action africaine et l'appui dans la mise en place du financement du monde tel que le partenariat public.
Un appel qui a trouvé écho auprès de la patronne du FMI. Christine Lagarde a promis l'appui de son institution aux autorités centrafricaines à condition que les actions entreprises profitent à la population.
Sans sécurité, pas de développement. Sans développement, pas de sécurité. Alors, le Fonds monétaire n'est pas seulement cette institution austère et rigoureuse. Bien sûr que les grands équilibres macroéconomiques doivent être rétablis. Bien sûr que l'autorité de l'État en matière fiscale, en matière budgétaire, doit être exercé dans la plénitude de ses fonctions et dans le respect du rétablissement des grands équilibres. Mais il nous appartient aussi, ensemble, de veiller à ce que ces programmes bénéficient à la population de la République centrafricaine. C'est vraiment dans cet esprit-là que nous nous engageons.
Au Parlement, le chef de l'opposition, Anissé Georges Dologuilé, a sollicité du FMI la mise en place d'un plan Marshall pour sauver l'économie centrafricaine. En réponse, Christine Lagarde a réitéré son soutien au pays tout en appelant les députés à la vigilance. Martin Ziguélé, président de la commission finances du Parlement, s'en réjouit.
Son déplacement en Centrafrique est déjà un élément très important qui doit conforter les autorités centrafricaines. Conforter aussi les Centrafricains que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons être aidés.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Sorti du rapport annuel de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, la Somalie est le pays le moins performant de l'indice et Nathalie Barge a joint Samuel Kaninda, le conseiller régional pour l'Afrique de l'Ouest de Transparency International.
sur cette région par rapport à l'indice de perception de la corruption. La nouvelle, c'est celle du Ghana, qui est un pays qui a, sur le lot, nous dirons, au-delà même de l'Afrique de l'Ouest, a toujours eu une note qui est parmi les meilleures, tout en étant entendu que la moyenne africaine reste en deçà de la moyenne, qui a régressé quand même substantiellement. Et c'est ça la grande nouvelle, mais aussi du côté positif, c'est que le Cap-Vert, qui a toujours été parmi les pays les mieux cotés sur cette enquête, qui a encore apprécié sa prestation ou sa note sur l'indice de perception de la corruption.
Dans votre région, toujours Afrique de l'Ouest, quels sont les pays qui seraient les plus mauvais élèves en quelque sorte ?
Les plus mauvais élèves, on a la Guinée-Bissau, on a le Ghana a régressé, mais il n'est pas forcément le plus mauvais de tous. Mais nous avons aussi des pays comme la Gambie. Peut-être ce sont ceux qui sont les plus au bas. Donc il y a la Gambie, il y a le Togo. Mais généralement parlant, nous disons que la sous-région de l'Afrique de l'Ouest n'a pas une bonne note ou une bonne perception de la corruption parce que la majorité des pays sur les 15 n'ont pas une note au-dessus de la moyenne, voire même les 40%, ce qui nous indique que la corruption demeure un défi majeur et elle demeure systémique et endémique dans la sous-région.
Mmh. Et donc vous faites un rapprochement dans ce rapport en particulier sur les politiciens populistes.
Oui, les politiciens populistes, ça c'est à l'échelle mondiale parce que nous avons observé au courant de ces dernières années que il y a un sentiment d'exaspération au niveau des populations que nous lions aussi à un déficit de gouvernance qui s'apparente à des pratiques de corruption aussi. Et il y a des leaders politiques qui s'en servent pour avancer leur pensée, idéologie populiste que nous estimons ne pas être non plus la réponse aux vrais défis en jeu.
C'était Samuel Kaninda, le conseiller régional pour l'Afrique de l'Ouest à Transparency International.
Dans Washington Forum ce jeudi, Donald Trump, dès son entrée à la Maison-Blanche, s'est attaqué à la loi sur l'assurance maladie Obamacare et a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique. Depuis, s'en sont suivis plusieurs décrets présidentiels. Un début de mandat marqué aussi par les différentes manifestations anti-Trump massives aux États-Unis et à travers le monde. Alors, jusqu'où ira Donald Trump dans la rupture ? Quelles conséquences et quelle est l'influence de ces manifestations ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
C'est la plus importante annonce du genre depuis des années. Israël a annoncé la construction de 2500 logements en Cisjordanie occupée. Cette mesure est-elle liée à l'élection de Donald Trump, a priori plus favorable au gouvernement de Benjamin Netanyahou? Salwa Jafari a posé la question à Hugh Lovat du Conseil européen sur les relations internationales à Bruxelles. Il est également coordonnateur du projet Israël-Palestine.
D'une certaine façon, oui, tout à fait. C'est lié à l'arrivée du président Trump. Mais aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette décision et de telles actions ont été contemplées maintenant depuis pas mal de temps, depuis des années. Et on a vu un accroissement des colonies, même pendant l'époque président Obama. Donc, l'arrivée de Trump, certainement, je pense que ça va accélérer cette construction. Mais ce que ça fait aussi, ça va porter main forte, non seulement au Premier ministre Netanyahou, mais je dis encore plus aux éléments de sa coalition qui sont encore plus à la droite de Netanyahou, donc, c'est-à-dire Naftali Bennett et le parti de Habayit HaYehudi, qui est le parti des colons. Et donc je pense qu'on va voir peut-être même un certain déséquilibre dans cette coalition, où on risque de voir une politique américaine à la droite de celle qui est poussée par le Premier ministre Netanyahou.
Alors justement, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette politique américaine ? Qu'est-ce qu'on en sait exactement ? Donc, il y a eu plusieurs déclarations pendant la campagne de Trump. Mmh. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces positions, la position de l'administration Trump et aussi la position de ceux qui feront partie désormais de son cabinet ?
Donc c'est très difficile à éclairer en ce moment, puisqu'on voit des déclarations divergentes provenant de l'administration Trump. Mais je pense que ce qu'on peut être plus ou moins sûr, c'est que les actions de la Maison-Blanche risque de, premièrement, on va voir un certain laisser-faire au niveau de la colonisation israélienne en Cisjordanie et aussi à Jérusalem de l'Est. Et deuxièmement, je pense que ce qu'on risque de voir, c'est une politique américaine qui va à l'encontre de la politique de la communauté internationale.
Donc selon vous, on devrait faire une croix sur la solution à deux États ?
Potentiellement, c'est le début de la fin. Ce qui compte après ça, je pense, c'est la réaction de la communauté internationale et surtout, je pense, de l'Union européenne et de ses États membres pour aller à l'encontre de cette nouvelle politique américaine. Et aussi, ce qu'il faudra regarder, c'est bien sûr c'est la réaction palestinienne et quelle sera la direction sur des actions palestiniennes dans une situation où cette solution à deux États devient impossible.
Hugues Lovat du Conseil européen sur les relations internationales à Bruxelles.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Cette année, l'annonce des nominations des Oscars était très attendue en raison du manque de diversité lors des deux précédentes éditions. Contrairement à la tendance qui s'esquissait, la cérémonie des Oscars 2017 sera placée sous le signe de la diversité. Faisons le tour des nominations avec Dilly Dico.
En tête de liste, la comédie musicale La La Land de Damien Chazelle, chantée et dansée par Emma Stone et Ryan Gosling, avec 14 nominations. Le film de science-fiction Premier Contact de Denis Villeneuve et Moonlight, un drame de Barry Jenkins sur un jeune garçon noir homosexuel, sont les deux autres films les plus cités avec 8 nominations. Sur cette palette de nominations multiples, écoutons Cheryl Boone, présidente de l'Académie des arts et des sciences cinématographiques.
Cette année, nous avons la chance d'avoir beaucoup de films merveilleux. C'est absolument génial pour nous de pouvoir célébrer cette abondance.
Parmi les finalistes dans la catégorie meilleur film figure Manchester by the Sea avec Casey Affleck dans le rôle d'un homme soudainement forcé de s'occuper de son neveu, mais aussi « Tu ne tueras point » de Mel Gibson qui fait son grand retour, « Les figures de l'ombre » sur trois femmes noires scientifiques travaillant à la NASA, Lyon et aussi « Fences » avec Denzel Washington. On écoute Edward James Olmos, acteur et ancien nommé aux Oscars.
Être inclusif envers tous est primordial et c'est l'objectif principal de l'art. Et je pense qu'ils ont fait un superbe travail en ce sens. Il y a une superbe sélection de films cette année. Il y a aussi beaucoup de diversité.
Après 2 ans de polémique, la diversité prend sa revanche aux Oscars avec 6 acteurs noirs nommés et au moins un dans chaque catégorie de prix, du jamais vu. L'acteur Dev Patel, d'origine indienne, est en lice pour Lyon. Naji Ali, du projet Islamic Hope, nous parle de la diversité au-delà du prisme noir-blanc.
Il faudrait que nous puissions avoir une véritable diversité. Nous ne pouvons pas nous contenter de simplifier les choses avec des blancs et des noirs. Nous devons inclure tout le monde.
La diversité des nominations ne s'est pas arrêtée aux comédiens. Le réalisateur et scénariste de Moonlight, Barry Jenkins, a reçu 2 nominations. Earl O'Fary nous explique que la diversité doit se faire à tous les niveaux.
Il faut faire de la diversité le mot d'ordre, pas seulement devant les caméras, mais aussi derrière.
Le rapport 2016 sur la diversité à Hollywood de l'université UCLA souligne ainsi qu'au-delà des Oscars et des prix, la place des minorités et des femmes a reculé dans 6 catégories sur 11 et les minorités restent toujours sous-représentées sur tous les fronts.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel Joseph, à la console Nashwan Kale, présentation Abdourahman Dia, ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Bonne soirée.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.